Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. On poursuit notre grand voyage culturel. Aujourd'hui, on part au Japon, au Togo, en Argentine, dans la banlieue parisienne française et même dans l'univers carcéral. Manuel Capoué est belge, il publie un premier roman étonnant qui se déroule au Japon et qui aborde la question du climat dans une globalité mondiale et numérique. Et si tout était déjà joué, nous en parlerons avec lui dans quelques instants. Il sera question de l'actualité des livres de poche avec un conseil économe pour notre budget en ce début d'année. Le roman souvenir de l'acteur Jean-Pierre Darroussin vient de sortir en poche, entretien confidence tout à l'heure. Nous irons donc au Togo et en Argentine avec deux cartes postales sonore du projet Cyclopédie, et puis nous serons avec Nano Rousseau pour une histoire terrifiante avec un personnage violent, haineux et misogyne, rien que ça.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie comme chaque semaine. Jérémy Laniel est au Canada, quasiment sous la neige, libraire à Rosemère, à côté de Montréal. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous ?
Tout va toujours très bien sous la neige.
Vous êtes libraire dans la librairie Carcajou. Bonjour Sophie Creuse.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Belgique. Aussi. Oui, tout va bien aussi. Dans la librairie Graffiti à Waterloo, dans le froid également, puisque c'est l'hiver, c'est normal. C'est l'hiver aussi en France, avec l'Auxerrois Grégoire Courtois de la librairie Oblique, au cœur de la Bourgogne, avec les vignes gelées. Bonjour Grégoire.
Bonjour, non, c'est pas encore gelé.
Bah quasi, hein. Ouais, bah, il faut pas trop, hein. Faut trop que ça gèle.
Il faut absolument
pas.
Absolument pas. Il faut pas.
Vous lirez un extrait du livre de l'un de nos invités tout à l'heure. Pour la première fois dans l'émission, un libraire fait une lecture dans le cadre de l'opération La Nuit de la Lecture qui se tient tout le week-end en France et dans certains pays du monde. Nous y reviendrons avec vous tout à l'heure. En Suisse, on retrouve Anne-Françoise Corr de la librairie Page 2016 à Payerne. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Mais très bien, merci. Et vous ?
Bon, bah écoutez, ça va, ça va. On tient le choc, on tient le choc, on évite la grippe, tout ça. Bonjour Nano Rousseau.
Oui, bonjour.
Nous parlerons de votre nouveau roman tout à l'heure.
Ouais,
un polar très vif, agressif, voire provocateur, qui se déroule dans la banlieue de Paris et en partie en prison. On verra cela ensemble tout à l'heure. On commence toujours cette émission par une histoire intime racontée par l'un de nos invités. Vous avez carte blanche. Ouais. Que voulez-vous transmettre, Nan ?
Alors écoutez, non, mais c'est simple. Vous savez, je suis chercheur de trésors. C'est donc un poète français, pendant la guerre, en zone non occupée. La résistance à Londres lui demande de préparer une piste d'atterrissage. Il prépare, il trouve un terrain, il y a extra et tout, avec ses potes, des résistants. Ils disent, bon, bah voilà, on va préparer la piste. Sauf qu'il y a un énorme noyer, enfin une souche de noyer, qui est carrément pétrifiée, très, très, très ancienne, et il faut la virer. Donc ils s'y mettent, ils commencent à virer la souche, très dure, très profondément enfouie. Et c'est une histoire qui est assez courte, hein, fait 20 mètres. Et...
mais c'est pas une histoire personnelle, ça.
Non, 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 c'est une vraie histoire.
Mais une histoire autant... personnelle.
Mais, bah alors, vous voulez quoi? Que je vous dise comment j'ai salé le café à Fleury le 1er mai 1970 et que je me suis fait mettre au mitard, des trucs comme ça, mais c'est pas intéressant, ça.
D'accord. Ouais. Donc comme voilà, vous voulez, alors, les mecs, je vous ai carte blanche.
Les mecs enlèvent la racine, d'accord, les résistants. Non, mais allez bien, vous allez voir.
Perdus, hein.
Elle est liée aux Templiers.
Allez-y.
Vous allez voir au trésor des Templiers. Oui. Et donc, ils arrachent la racine, d'accord, ok. Ils arrivent au bout, et qu'est-ce qu'ils déterrent au bout de la racine? Ils déterrent un Templier, justement, avec son casque, ses armes et tout, qui avait été enfoui là, et on n'a jamais su pourquoi. Et donc ils appellent des archéologues, ils ont regardé un guerrier du Moyen-Âge, dément quoi. Et les mecs, ils font ça, hein, puis le soir ils vont bouffer ensemble, et l'archéologue il leur dit, voilà, je vais vous raconter l'histoire du noyer. Le type, il a été enterré avec une noix dans sa poche. Et donc pendant toutes les années, la noix elle a poussé et elle a fait le noyer qui est là. Voilà, c'est ça l'histoire.
Bon, bah écoutez, on va retenir cette histoire.
Elle est bien, elle est vraie. Hein.
Elle est vraie, bah, j'imagine, c'est un peu le principe aussi.
Ah ouais, non, mais c'est dément, c'est des guerriers qui déterrent un guerrier.
Oui, on a compris, oui, c'est génial. Non, mais vous renouvelez le principe de l'émission, c'est génial.
Ah bon.
Bon, très bien, Nano Rousseau est dans la librairie francophone cette semaine. Ça promet. Ne vous laissez pas impressionner. Bonjour Manuel Capoué.
Bonjour.
Il est là un peu halluciné. Il se dit, où est-ce que je suis? Dans quelle émission je suis tombé? Vous publiez votre premier roman, Le Modèle. Vous êtes un chercheur belge, expert en chimie environnementale. Vous avez travaillé sur des super modèles climatiques. C'est quoi un super modèle climatique?
Alors d'abord, un modèle, c'est quoi? C'est un programme informatique qui va exécuter
des opérations très simples, mais il va les exécuter des millions de fois. Mmh. Et c'est de cette simplicité exécutée de manière presque infinie que va jaillir cette complexité. Alors qu'est-ce que c'est un super programme informatique maintenant ? C'est lorsque plusieurs chercheurs développent ensemble un seul modèle. Et donc chaque chercheur développe son module, ce qui fait qu'aucun chercheur n'a une vision globale sur ce modèle. Ce qui fait aussi que ce modèle est très lourd et il va être exécuté par plusieurs machines en même temps, plusieurs ordinateurs en même temps, qui doivent évidemment se parler ensemble. Donc, vous imaginez la difficulté, le défi que représente ce genre de gros modèle.
Alors, c'est un peu le sujet de votre roman. Il y a un jeune chercheur qui part au Japon et qui est chargé d'une étude de prospective et de simulation climatique. Et dans les premières pages, vous évoquez la possibilité d'un déchet ultime, un déchet nuisible par sa seule présence et qui polluera au-delà de la Terre puisqu'il touchera la Voie lactée. C'est possible, ça ?
On y travaille, je crois.
Avec acharnement, oui.
Oui, c'est ça. À mon avis, on devrait peut-être réussir à produire le déchet ultime, oui. Peut-être, oui.
C'est possible, vraiment.
Je ne sais pas, mais on travaille dur, je crois. On peut y arriver, je ne sais pas.
Vous dites, lorsque nous aurons réussi cet exploit, nous deviendrons Dieu.
Oui, je ne m'attendais pas à ce que vous me posiez cette question-là, mais oui.
Il y a plein de pistes,
c'est-à-dire qu'on
Manuel,
pense toujours à... On identifie Dieu, une divinité à la beauté, à la création, à quelque chose de splendide. Mm. Mais finalement, on pourrait très bien regarder de l'autre côté et se dire, ben, finalement, être Dieu, c'est peut-être aussi créer le déchet le plus mauvais de la Terre, de l'univers.
Alors, votre personnage va faire une rencontre avec un super ordinateur. Un ordinateur nommé AGCM, qu'il surnomme lui-même Scylla, parce qu'il va tomber quasiment amoureux de cet ordinateur. Il en est obsédé au point de se désociabiliser. C'est l'autre sujet de votre livre, ça, l'aliénation de l'homme par la machine. On a déjà bien commencé dans ce sens-là. Si un bug mondial se produisait, qu'est-ce qui se passerait ? Quel est le risque ?
Il fera peut-être noir d'abord, mais peut-être qu'on apprendra peut-être à avoir un peu plus le temps. Peut-être. Mais je ne le souhaite pas, hein. Ceci dit, bon.
On va laisser la parole à Anne-Françoise Kohr, qui est en Suisse, qui est libraire et qui a lu avec intérêt votre roman, Manuel Capoué. Anne-Françoise, c'est à vous.
Oui, alors ce premier roman de Manuel Capoué se situe en terre nippone et il décrit avec humour et légèreté les codes et rituels d'une culture japonaise si différente de la nôtre. Ce roman très bien rythmé nous permet d'appréhender les notions complexes du climat, des prédictions catastrophiques planétaires, de ses conséquences sur un mode drôle, sans pour autant esquiver les réflexions sur l'avenir de notre Terre.
Mmh, exactement, c'est bien résumé en tout cas. On va écouter la BO du roman Manuel Capoué. On vous a demandé quelle est la musique qui illustre le mieux votre livre, la bande originale de votre histoire, comme au cinéma, et vous avez choisi le groupe japonais The Boom avec Shima Uta. On va écouter un extrait, vous allez découvrir sans doute cette chanson, vous qui nous écoutez, et vous nous expliquez juste après, Emmanuel. Boom, Shima Uta, gros succès au Japon, qui s'est vendu à 1 500 000 exemplaires. Pourquoi ce titre, Manuel Capoué ?
Ah, c'est une chanson qui est énormément chantée dans les karaokés. alors, elle est intéressante à plus d'un titre. D'abord, pour certains, ça ressemble peut-être à une musique de restaurant chinois. Mais beaucoup, c'est une très belle mélodie et c'est une mélodie qui est basée sur la musique traditionnelle d'Okinawa. Mm-hmm. Et alors l'histoire intéressante, c'est que le chanteur a fait un séjour à Okinawa. Il a rencontré une vieille dame et la vieille dame lui a raconté ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale à Okinawa. Et comme vous le savez, les Américains ont débarqué à Okinawa et sous la pression de la poussée des Américains, les civils japonais ont dû se suicider en masse. C'était de force, forcée par l'armée japonaise. Et il n'était pas au courant de ça. Bien sûr, il a été choqué par l'événement, par l'horreur de cet événement, mais il a été choqué de ne jamais avoir su ça auparavant.
Alors c'est vrai qu'il est question de la démographie, pas seulement du climat. Hein. Dans votre roman, Manuel Capoué, les études du climat doivent tenir compte d'ailleurs de l'évolution de la population mondiale. Et vous semblez dire que la planète est surpeuplée. C'est une question un peu tabou, ça, non ?
C'est une bonne question. En fait, Jacques débarque à Tokyo et évidemment, il est impressionné par cette fourmilière géante. Qui est quand même assez paisible. C'est étonnant de voir qu'il y a des millions de Tokyoïtes chaque jour qui y travaillent, qui y séjournent. Et tout ça se passe de manière assez paisible. Je crois qu'on mettrait le même nombre de Parisiens à Tokyo, c'est la guerre civile. Mais là, ça se passe assez bien. Et donc, il est impressionné par cette fourmilière. Et donc, il se met en tête de modéliser la démographie, de modéliser ces flux démographiques, de modéliser les natalités, les morts, etc. De faire ce comptage un petit peu froid. Et effectivement, à un moment donné, il se demande si tout le problème ne vient pas du fait qu'on est plusieurs milliards et qu'on va vers les 10 milliards et que cette planète elle n'arrive plus à supporter ces 10 milliards d'individus. C'est une question en effet qui est posée. Alors, est-ce qu'il y a un tabou ? Je n'en sais rien. Mais c'est une question intéressante. Oui, je n'ai pas la réponse, évidemment.
On va laisser la parole à trois autres libraires qui ont lu votre roman, Manuel. Belgique, France ou Canada ? On commence par qui ? Vous préférez qui ?
Canada,
allons-y. Jérémy Laniel.
Oui, alors dans ce roman de Manuel Capoué, il y a un ton léger qui donne rapidement son air d'aller au roman. Mais ça, malheureusement, je trouve que ça s'essouffle assez à un moment. Entre le Japon, le climat, le ton caustique, la science, le lecteur cherche à quoi se raccrocher. On se rend compte que c'est un peu mince à un certain moment. C'est là que le bas blesse. On a l'impression que Capoué s'intéressait à plein de choses. Il a voulu toutes les mettre dans le même bouquin et ça fonctionne peut-être pas.
C'est vrai que c'est assez dense. Sophie Creuse, êtes-vous d'accord ? En Belgique
En partie, oui. Mais d'abord, je salue Manuel Capoué, quand même, qui habite Waterloo, comme moi, et qui est venu dans notre librairie présenter ce livre, qui paraît, je le dis aussi, chez des éditrices belges courageuses qui font du bon travail. Je voulais le saluer.
Édition
Alors,
Diagonale.
Oui, j'ai trouvé... Oui, absolument. J'ai trouvé très intriguant l'histoire du dérèglement, et pas seulement climatique, hein, qui découle de la rencontre à la fois physique et virtuelle du personnage avec le supra-ordinateur. Et je trouve, en effet, que vous auriez dû vous concentrer moins là-dessus, sur ce vertige-là. Parce que le reste, ce dont vous parlez, le choc culturel, linguistique, la vie estudiantine, le côté à nous, les petites japonaises, pour moi, est beaucoup plus attendu.
Grégoire Courtois, en France, qu'en pensez-vous ?
Ouais, je suis assez d'accord avec Sophie sur le côté, effectivement, belge au Japon, qui est un peu plus convenu, qui est la partie, pour moi, la moins intéressante du roman. Alors que, effectivement, les modèles, et puis tout ce qui est évoqué sur les modèles, me fait penser très très fort à la psychohistoire de Isaac Asimov, par exemple. À tous ces concepts de science-fiction qui, à l'époque, étaient très révolutionnaires et aujourd'hui sont à portée de main. Donc là, effectivement, j'étais beaucoup plus passionné par cette partie-là.
Mais c'est vrai que vous avez voulu mettre beaucoup de choses parce qu'on part du climat. Hein. On a vraiment l'impression qu'on va lire un livre sur le climat. Puis petit à petit, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment ça. Alors, il y a des réflexions sur le climat. Manuel Capoué, vous n'allez pas y échapper ici même parce que vous montrez que les études climatologiques dans votre roman, elles sont catastrophiques. Les prévisions sont très sombres et vous écrivez « La messe était dite et c'était bien foutu pour l'homme. Seul notre mode d'exécution restait encore incertain. Allions-nous étouffer sous nos propres saloperies ou nous noyer dans un grand déluge ? Quelle est l'alternative ?
Ah, ça, je... Ça,
vous allez me dire, je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Alors, à quoi elles servent ? ces études climatologiques, alors ?
Ben, disons, je crois que ça dépend un peu sur quelle étude vous vous penchez. Et je crois que chacune vous dira que les choses vont mal. Maintenant, ça dépend de quel côté on se place, parce que...
Non, mais ça, c'est trop facile, Manuel. Parce qu'effectivement, on a ce discours qui affole tout le monde et qui est sans doute légitime et justifié. On voit plein de choses qui se passent dans la nature et qui font qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, ce n'est pas comme ça une lubie. Mais quand il y a des études climatologiques, il n'y a pas vraiment de réponse. Et vous le montrez là, en ce moment même. Est-ce que tout est déjà foutu pour l'homme, comme vous l'écrivez ?
Ah, je ne peux pas vous répondre. Mais vous savez, ça ira mieux. Dans 2000 ans, ça ira mieux.
Ah bah oui, on ne sera plus là.
Bah oui, mais bon, c'est déjà ça.
Vous voulez qu'on parle de quoi alors ? Des petites prédictions tiens, climatiques que j'ai relevées. Ouais. Shanghai qui devrait tôt ou tard disparaître sous les eaux.
Ouais.
Et surtout un coin de la Chine qui devrait avoir un climat identique à celui du sud de la France pour faire pousser de la vigne, sachant que assez à court terme, on va dire moyen terme, le sud de la France perdra toutes ses vignes.
Oui, ça, ça fait peur aux Français, je peux imaginer.
Oui, vous imaginez. Ouais.
Effectivement.
Ouais. Pauvres auditeurs français.
Oui, c'est vrai que ce réchauffement climatique entraîne une augmentation de température. Et donc, les climats, si vous voulez, vont bouger vers le nord une centaine de kilomètres. Mm-hmm. Mais vous savez, ça, c'était les prédictions il y a 10 ans. Donc maintenant, je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais effectivement, c'est dans ce sens-là. Donc oui, il y a une inquiétude pour le vignoble français. Peut-être que finalement, on va le faire en Belgique. On pourrait nous arranger.
C'est un livre caustique, en fait, que vous avez écrit. C'est pas du tout une analyse scientifique. Vous vous défoulez un peu.
C'est caustique. Oui, c'est caustique. Mais à la fin, je crois que le dernier chapitre l'est nettement moins. Je crois que là...
Ce que je viens de citer, c'est dans le dernier chapitre. Hein, l'histoire des vignes, tout ça.
Non, à la fin. Non, c'est à la fin. Dernier chapitre... C'est vers la fin. Bon, je ne sais pas s'il faut déflorer
Non, pas tout.
Mais... Dans le dernier chapitre est nettement moins caustique et je crois que là, Jacques se rend un petit peu compte de l'enfermement technologique dans lequel il était.
Pas seulement de l'enfermement, Manuel Capoué, parce qu'il y a une phrase finale, une phrase qui est très révélatrice, puisqu'il jette comme ça quelque chose dans l'eau, et puis il y a un plouf qui se produit, il dit voilà, on n'est rien finalement dans tout ça, et puis tout le monde s'en fiche finalement de ce qui se passe, de ce qu'on peut faire. C'est ça sa conclusion, on ne déflore rien du livre en disant ça.
En fait, la Terre s'en fiche, je crois. Je crois que c'est la réflexion de Jacques à la fin, c'est que on parle souvent de la Terre en termes assez élogieux, en parlant de mère nature, en parlant de Gaïa, mais finalement, peut-être qu'on est face à une Terre qui s'en fiche complètement. Et puis, c'est une mère qui se fout pas mal de ses enfants, et puis, si ses enfants l'emmerdent trop, elle va s'en débarrasser, et puis ça ira très bien comme ça. Et puis, comme je vous disais, dans quelques milliers d'années, elle retrouvera un climat tout à fait serein, elle sera de bonne humeur, et... Et voilà, l'homme n'aura été qu'un petit virus. C'est peut-être ça, plouf, c'est peut-être ça.
C'est ça.
C'est, comme il le dit, c'est peut-être la Terre qui s'en fiche.
L'homme est devenu...
Par une boutade.
Est devenu un virus parce qu'il est passé du créateur au consommateur, c'est ce que vous dites.
Peut-être, c'est ce que Jacques dit en tout cas.
Oui, c'est ce que Jacques dit.
Peut-être, oui.
Bon, on va rester sur cette réflexion. Merci beaucoup, Manuel Capoué.
Merci.
Le Modèle est paru aux éditions Diagonale. C'est votre premier roman et la première grande radio. Donc voilà, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci à vous. À suivre, Un son du monde grand format avec le projet Cyclopédie qui vous emmène en Argentine et au Togo et un livre de poche pour préserver votre budget en ce début d'année avec Jean-Pierre Daroussin. Avant cela, on écoute une nouveauté musicale signée M, Oxmo Puccino et Fatoumata Diawara. Voici le bal de Bamako dans la librairie francophone.
Un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise. Peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au mali d'émerveille, le mali Dieu crée à la flamme. Le mali danse dans mon âme. On y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
C'est moi le capitaine. Tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite. Reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément. Vire-le, qu'on le fasse légalement. Si t'y penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité. Dulcu Cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère.
On y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Au bal de Bamako,
je t'ai dans la peau.
Au bal de Bamako,
Oxmo Puccino et Fatoumata Diawara, le bal de Bamako, extrait en avant-première d'un album qui sortira au mois de mars sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde avec des libraires qui vous présentent leur coup de gueule et leur coup de cœur. On part au Canada tout de suite avec Jérémy Laniel et un gros coup de cœur pour un roman au Québec. Jérémy.
Effectivement, immense coup de cœur pour Peggy dans les phares de Marie-Ève Lacasse. C'est publié chez Flammarion Québec. Ici, c'est l'histoire d'amour méconnu, voire inconnu, entre Peggy Roche et l'écrivaine Françoise Sagan. Hein, ça nous est romancé d'une façon magnifique dans un roman qui nous présente l'écrivaine sous son meilleur jour, tout comme dans ses pires profondeurs. Et tout ça, c'est dans l'œil de cette compagne la plus fidèle pendant plus d'une vingtaine d'années, la styliste Peggy Roche, une femme sur qui on connaît à peu près rien. Ici, sous l'écriture de Lacasse, la mode et la littérature se marient comme je l'ai rarement lu. Un portrait et un hommage au Paris d'après-guerre, c'est un des incontournables de la rentrée.
Oui, exactement. Marie-Ève Lacasse, Peggy dans les phares, c'est son premier roman et c'est aux éditions Flammarion et Flammarion Québec. Merci Jérémy. Grégoire pour la France, on va dans le rayon des essais avec vous.
Ouais, et c'est historique parce que c'est un essai qu'on attend depuis un certain temps. Je dis on attend parce que c'est un projet qui est né il y a très très longtemps. C'était Howard Zinn à l'époque qui avait fait son histoire populaire des États-Unis et c'est vrai qu'on attendait l'histoire populaire de la France. Alors c'est pas Howard Zinn qui s'y colle, bien évidemment. C'est une grande historienne française, Michèle Zaccarini-Fournel, qui fait ça, qui s'appelle Les luttes et les rêves. Et ça vous raconte l'histoire de France à partir de 1685, la révocation de l'édit de Nantes, jusqu'à nos jours, du côté des faibles. Des gens qui sont dans les colonies, par exemple, des femmes, parce qu'effectivement, c'est tous ces types de populations qui n'apparaissent pas dans les livres d'histoire, qui généralement est écrit par les vainqueurs et rarement par les vaincus. Ça donne une somme considérable, et c'est quelque chose d'absolument passionnant et qui était indispensable.
Donc c'est un coup de cœur, si
je comprends
bien.
C'est un vrai coup de cœur,
oui. C'est ça. Bon, La lutte et les rêves aux éditions Zone.
Ouais, Zone.
D'accord,
ouais,
tout à fait. Très bien, le coup de cœur de Grégoire.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Et on part tout de suite en Argentine et au Togo avec le projet Cyclopédie. Deux jeunes apprentis reporters font en ce moment le tour du monde à vélo à la rencontre des libraires francophones. Bonjour Édouard Delbande.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en Argentine en ce moment, Édouard, et vous êtes allé dans une librairie qui milite pour la culture francophone. Où est-elle exactement, cette librairie? Que font-ils là-bas?
Alors absolument. Donc la librairie s'appelle Las Mille et Une Horas, donc les Mille et Une Pages, et elle se situe à Buenos Aires. Il y a deux antennes. Une dans le quartier de Belgrano, qui est au nord-ouest de la ville, assez aisé et résidentiel, et une dans le Microcentro, qui est donc le centre d'affaires au cœur de la ville. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils militent en effet pour la littérature francophone, la rendent humaine en essayant à chaque fois qu'il y a des auteurs francophones qui font des tournées en Argentine, d'organiser des rencontres dans la librairie, des rencontres qui sont très très réputées, où elle arrive à créer une véritable intimité entre le public francophile et l'auteur.
Et tous ces auteurs, voilà, un rôle d'accueil aussi. Vous avez recueilli le témoignage de Monica de cette librairie Las Mil y Una Horas.
La librairie est placée sur l'avenue Luis María Campos. Elle existe parce qu'il y a cet amour par la culture française. Nous, en tant qu'acteurs, nous avons aimé la culture française qu'on peut transmettre et que tout de suite on comprend de quoi il s'agit. Il y a Camus, il y a le Petit Prince, il y a le Petit Nicolas. Alors, ils viennent acheter la chose classique ou même le manuel pour apprendre la langue. On les amène aussi à montrer les choses différentes et aussi des auteurs peu connus mais qui sont très particuliers mais à la fois très beaux. Voilà, ça c'est la diffusion. transmission de la culture aussi. C'est en ça qu'on fait vivre la littérature. Il faut savoir que c'est une des seules librairies qui reste à Buenos Aires et qui appartient aussi au réseau du CNL.
Voilà, l'ambiance de Buenos Aires avec cette librairie. Il y a quelques jours, Edouard, avec le projet Cyclopédie, vous étiez encore en Afrique où on vous avait laissé la dernière fois, et à Lomé au Togo, il y a une histoire incroyable que vous a racontée Sœur Jeanne, qui s'occupe de la librairie francophone Bon Pasteur, et c'est d'ailleurs le diocèse qui gère la librairie. Ce sont des religieux qui s'occupent de ça ?
Oui, absolument. La librairie appartient à l'Église catholique et elle est gérée, administrée par des sœurs. Et en fait, la particularité, c'est qu'il n'y a que des femmes qui travaillent dans cette librairie.
D'accord. Et la librairie existe d'ailleurs depuis 1906. Alors, il y a des revendeurs autour de la librairie qui empêchent vraiment les clients de rentrer, qui les dissuadent même et qui font du trafic de livres. C'est une histoire incroyable. C'est à Lomé, au Togo. Écoutez.
Aujourd'hui, au Togo, nous souffrons beaucoup. Il y a des revendeurs à notre devanture qui vendent les vieux livres ou bien les livres qu'ils viennent eux aussi acheter chez nous et augmentent le prix. Mais vu le prix dehors, ils n'osent pas rentrer pour savoir réellement le prix que nous avons ici sur place. Quand un client vient, il demande après la librairie. Lui, il veut s'y rendre. Mais arrivés à la devanture, ils sont là. Ils disent, qu'est-ce que vous cherchez? Venez, là à l'intérieur c'est climatisé, c'est plus cher. Ils ont du personnel à payer. Venez, je vais vous vendre ça moins cher. Alors que ce livre-là a été acheté chez nous, peut-être à 2000 francs. Ils vont le vendre au client à 3000, voire 4000 francs. Donc les clients qui ne s'y connaissent pas facilement sont roulés par ces vendeurs informels.
Voilà pour ces deux cartes postales sonores en Argentine et au Togo, deux témoignages qui prouvent que militer pour la culture n'est pas toujours facile, mais il y a en revanche toujours quelque part dans le monde des hommes et femmes qui se battent pour la culture francophone et pour le livre. Merci beaucoup Edouard Delbande, quelle est votre prochaine étape alors ?
Alors là, on traverse donc la pampa argentine et on fonce tout droit vers l'ouest, vers la cordillère des Andes. Le but c'est d'atteindre Santiago du Chili d'ici 2-3 semaines.
Et tout ça à vélo, bon courage. Hein. Musclez-vous les jambes, continuez. Merci beaucoup Edouard, on vous souhaite bonne chance et plein de belles rencontres pour la suite de ce périple jusqu'en juin prochain. Au revoir Edouard.
Au revoir Emmanuel, merci beaucoup.
Et on vous parle maintenant de l'actualité des livres de poche avec deux acteurs qui sortent leurs livres en poche. Philippe Torreton publie Mémé, un récit touchant sur sa grand-mère dont il nous avait parlé ici et que vous pouvez d'ailleurs réécouter en podcast. Et Jean-Pierre Daroussin qui lui aussi raconte une partie de sa vie avec de nombreuses anecdotes. Son livre Et le souvenir que je garde au cœur vient de sortir chez Point. Voici le facétieux Daroussin. Sur le chemin de l'école, dans le bus, il y a une fille qui focalise votre attention pendant un peu plus de 2 ans.
Oui, oui, ça. Bah, moi, j'étais en quatrième jusqu'en, oui, pratiquement jusqu'en seconde.
Vous l'attendez, vous la surveillez.
Bah,
vous
la suivez. On faisait le trajet ensemble. Je la suivais pas quand même. N'exagérons rien.
mais vous étiez limite, Jean-Pierre.
Non, oui, c'est ça, un petit peu limite. Évidemment que si cette jeune fille n'était pas devenue connue, j'aurais oublié cette anecdote. Il se trouve que c'était Isabelle Adjani. Après, rétrospectivement, ça me fait drôle de savoir que, oui, je m'arrangeais toujours pour la voir dans ma ligne de mire pendant l'autobus.
Elle l'a jamais su ?
Non, elle l'a jamais su.
Ah oui ?
Enfin, si, d'abord, on commence à le savoir parce que je le raconte souvent. mais...
Isabelle Adjani, si vous nous écoutez, donc voilà, la confidence de Jean-Pierre Daroussin, qui a fait de vous une star finalement. Dès le début, vous étiez poursuivi par des pseudo-paparazzi. Bon, il y en a une autre histoire qui jalonne comme un fil rouge tout le deuxième chapitre. Dans les années 80, vous décidez avec vos amis de faire le tour du monde en bateau. En 1984, d'ailleurs, vous êtes en pleine Méditerranée, vous avez très peur, vous avez failli y passer parce qu'il y a une tempête. Et ce bateau, vous allez le chercher en Norvège. Vous y mettez toutes vos économies. Et on apprend, Jean-Pierre, que pour réaliser votre rêve, vous volez.
Quand on a acheté ce bateau, il n'y avait quasiment que le moteur sur le bateau. Oui. On était monté avec une DS et une R16. Et on a mis la DS et la R16 dans la cale du bateau, quand même, pour dire que c'était assez grand. Mais tout ça a été un peu vite, c'était une coquille. Quoi,
d'accord,
avec un moteur.
Le sextant dérobé, puis des bons vins aussi. Vous volez des bons vins avec vos amis, enfin vous volez.
Voilà.
Oui, je rappelle qu'on est en 1984, Jean-Pierre, et que vous avez déjà tourné avec Jean-Jacques Hano, coup de tête, avec Philippe de Broca, Psy, Georges Lautner, Est-ce bien raisonnable, et avec Bertrand Blier, Notre histoire, aux côtés de Nathalie Baye et d'Alain Delon.
Oui, j'ai continué de délinquant pendant un certain temps, c'est ça que vous voulez dire.
En tout cas, c'est ce que j'en ai traduit, oui.
Oui, je peux le reconnaître. Mais enfin, c'était aussi c'est l'esprit de bande aussi. Voilà, ça continuait ce qu'on avait pu être quand on avait 17, 18 ans, même si on avait 25 ou 26 ans, on était peut-être encore un peu ce qu'on avait été adolescent, quoi.
Vous racontez vos amitiés, en tout cas, avec des acteurs, Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Catherine Fraud, Robert Guédiguian, bien sûr. Et quand on lit votre livre, Jean-Pierre Darroussin, je ne sais pas si vous allez le prendre pour un compliment ou un reproche, enfin, peu importe, on se croirait dans un film de Guédiguian. C'est sensible, humain, touchant, un peu comme dans ces histoires, en fait.
Ah bah, je le prends très bien, parce que, comme je disais tout à l'heure, on est dans un terreau à peu près commun, on a poussé de la même façon, même si lui c'était à Marseille avec l'accent, et moi à Courbevoie sans accent, ou avec l'accent parisien qu'il a fallu, qu'on me reprochait beaucoup quand j'étais jeune comédien, il a fallu que je me débarrasse comme les accents marseillais. Souvent on est obligé, les jeunes acteurs, on leur dit de se débarrasser de ça. Moi c'est pareil, je parlais comme ça, un peu comme Arletty, il y avait un truc comme ça. Et puis alors, je parlais à tout berzing, ça a bien changé. Alors que justement, après quand j'ai joué Meilleur copain, que d'un seul coup je parlais comme ça, c'est très différent.
Oui, maintenant vous êtes beaucoup plus posé.
Mais à l'époque, quand j'étais jeune, au contraire, c'était vraiment le contraire.
Bon, il y a une scène qu'on a relevée dans Les neiges du Kilimandjaro. Vous vous souvenez évidemment de ce film. Il y a un passage qu'on va écouter et vous allez réagir juste après. Et moi, je dirais que ça colle parfaitement à votre livre et à ce que vous êtes aujourd'hui. Écoutez.
Bonjour les inconnus.
Tu me parles ?
Non, rien.
Qu'est-ce que t'es dit ?
Je me demandais qu'est-ce qu'on aurait pensé de nous assis là, comme ça, sur une terrasse en train de boire un coup au soleil couchant.
Qui ça ?
Nous. On aurait pensé quoi de nous ? Hein ? Tu t'imagines, 30 ans en arrière, passer dans la ruelle, lever la tête, et voir deux quinquagénaires, l'air paisible, en train de siroter, de cracher leur noyau par-dessus la balustrade. Qu'est-ce qu'on se serait dit à propos d'eux ?
On les aurait traités de petits bourgeois.
On est des bourgeois. On va à la mer tous les dimanches. On est propriétaire. On regarde la télévision.
On est bourgeois, mais pas trop.
Ce dialogue avec Ariane Ascari de le film de Guédiguian, Les neiges du Kilimandjaro. Vous imaginiez à cette place, à ce micro, à raconter cette vie lorsque vous aviez 20 ans ?
Non, absolument pas. J'avais aucune projection, aucun fantasme de moi-même en tant que vedette.
Ça vous touche, ça, hein ? J'ai l'impression, cette...
Oui, ça me touche d'abord parce que Robert a bien synthétisé et bien écrit des choses qu'on peut ressentir.
C'est parfaitement fait, oui.
Mais malgré tout, je me sens encore très proche de mon père. Et si moi, je réfléchis à qu'est-ce que le jeune homme penserait de cette personne que je vois, je pense que j'aurais à peu près la même attitude que jeune homme et avec mes camarades, la façon dont on pouvait justement voir mon père.
Ouais.
C'est-à-dire quelqu'un qui vous donne confiance dans la possibilité qu'on peut vieillir en gardant sa fantaisie, en gardant son enfance.
Et en s'embourgeoisant un peu.
Et en s'embourgeoisant éventuellement, en tous les cas, en prenant des habitudes, comme c'est ce qu'on dit dans le film.
Mais vous êtes enrichi, Jean-Pierre, ça a changé des choses avec tous ces rôles au cinéma.
Ah bah ça a changé une espèce de tranquillité de vie, bien sûr. Si je veux me payer un bon restaurant, bah j'y vais. Puis voilà, c'est tout.
Ou un sextant ou des bons vins, vous n'avez plus besoin de.
Voilà, un sextant.
Vous arrêtez les vols, hein, maintenant, Jean-Pierre. Ça suffit.
Ça y est, j'ai arrêté.
Et le roman de Jean-Pierre Darroussin, Le souvenir que je garde au cœur, est paru en poche aux éditions Point. Vous pouvez regarder aussi Les neiges du Kilimandjaro, magnifique film vraiment de Robert Guédiguian. Anne-Françoise Corre en Suisse dans le rayon poésie. Tiens, on reste un peu dans la poésie. Un coup de cœur ou un coup de gueule, Anne-Françoise ?
Un vrai coup de cœur, Emmanuel.
Allons-y.
Pour un recueil poétique qui s'intitule « À la croisée des brides », qui a été écrit par Françoise Matet, qui est une poétesse de Suisse romande, plus précisément des environs de Tramelan, dans le Jura bernois. Nous sommes dans un pays de froid, de vent et de neige. Une jument s'y promène, éveillant la passion de la poétesse, puis celle d'une fillette. Rencontre, transmission des gestes, hymne à l'animal, hymne à sa beauté, hymne au paysage, aux saisons, à l'exil, à l'effroi, aux légendes enfouies. Tout y est présence et accomplissement.
Voilà, une chronique réalisée, en tout cas énoncée comme un poème, avec à la croisée des brides de Françoise Mattet aux éditions de l'Air. Merci Anne-Françoise. Dans la catégorie des bandes dessinées, on part en Belgique, Sophie Creuse. Changement d'ambiance avec un énorme coup de gueule, paraît-il.
Bah oui, c'est pas du tout un hymne, c'est plutôt un coup de gueule. Oui, pour Tintin, au pays des soviets, bah oui, je vais oser. Parce que tirer à 300 000 exemplaires, remettre en circulation et en couleur le plus mauvais album de dessin d'Hergé, qu'il a commis dans les années 20 alors qu'il en a à peine plus, pour moi, c'est l'exemple même de l'abus de pouvoir des ayants droit. Alors, c'eût été intéressant si le but était de montrer que le jeune Hergé dénonçait la propagande bolchevique en tombant lui-même dans la propagande de l'Occident sauveur des peuples, mais il n'y a aucun avant-propos et cette opération est exclusivement commerciale. Elle n'a pour moi aucun intérêt, du moins artistique.
Très bien. En tout cas, Hergé, c'est vrai, ce serait opposé à ce qu'on touche à son œuvre. Donc là, il y a un peu un sacrilège. Il y a un grand débat sur ce sujet avec Tintin au pays des soviets, donc en couleur aux éditions Casterman. Merci beaucoup, Sophie. Et nous serons au Festival international de la BD d'Angoulême, justement, le 27 janvier. Enregistrement exceptionnel en public à 15h à l'espace Franquin avec les auteurs qui font l'événement sur place. Vous êtes tous les bienvenus. La librairie francophone avec Manuel Capoué, le projet Cyclopédie, Jean-Pierre Daroussin et Nano Rousseau. Nan, votre roman raconte une histoire horrible. Un homme aux apparences trompeuses va multiplier les pires horreurs. Il faut se méfier des apparences.
Bah oui, complètement. C'est un type, vous pourriez l'inviter chez vous sur votre canapé, puis il finit par violer votre mari si vous êtes une nana, etc., etc.
Quoi. Carrément.
Ah ouais, ça se termine mal. Mais c'est une histoire vraie. Hein. C'est bon, vous savez, le romancier, c'est une éponge. Hein. Il entend, il écoute.
Ouais.
Maintenant, c'est pour ça que vous m'avez demandé une petite histoire me concernant. J'ai plus d'histoire. Moi, j'en ai eu trop quand j'étais jeune.
Ouais, donc, vous les avez toutes racontées dans les livres.
Alors
aussi,
j'écoute
hein.
Maintenant. Ouais, je les ai toutes racontées dans les bouquins en plus. Non, j'ai pas raconté celle où j'ai salé le café le 1er mai 70 à Fleury, mais je la raconterai un jour. Cela dit, voilà, donc...
C'est un métier, les apparences, comme dit votre personnage?
Oui, c'est un métier.
Vous êtes dans les apparences, vous, aujourd'hui?
Non, pas du tout. Moi, je suis le mec gris ordinaire. Moi, les garçons de café, ils me voient pas. Ils mettent 2 heures à venir. Ah, oh, monsieur, je vous avais pas vu. Je suis tranquille, très, très tranquille.
C'est vrai. Mais vous êtes vraiment rangé. Ce n'est pas une question d'apparence, ça.
Ah, non, je suis complètement l'homme gris normal, qui embête jamais personne. J'aide les gens, je laisse ma place dans le bus, tout ça. Très, très gentil. Très, très gentil.
On va parler de ce livre où il n'est pas du tout gentil, le personnage. Il est horrible, affreux. C'est terrible, on a même du mal à aller jusqu'au bout. On va en parler dans un instant. Voici un tube francophone très connu, réinterprété par The Last Shadow Puppets. Là aussi, méfiez-vous des apparences, c'est très étonnant et vous allez forcément reconnaître.
Dans le cœur, il y a des cactus sur la pierre.
The Last Shadow Puppets, qui reprend le titre de Jacques Dutronc, les cactus, sur ici Radio Canada Première, RTBF la première de l'RTS et sur France Inter.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Nano Rousseau est dans la librairie pour Des coccinelles dans les noyaux de cerise, paru chez Buchet-Chastel. On va se mettre tout de suite dans l'ambiance de votre roman, Nano Rousseau. Ce week-end se tient en France, mais aussi au Chili, en Roumanie et dans les villes frontalières de la Belgique et de la Suisse, la nuit de la lecture. 16 000 bibliothèques et points de lecture sont le relais de cette action. Grégoire Courtois, votre librairie s'est associée à cette initiative en France.
Oui, tout à fait. Oui. On a invité des auteurs et puis on va s'installer tranquillement pour lire.
Toute la soirée et pour la première fois dans la librairie francophone, un libraire va donc lire un texte. Voici un extrait du roman de Nano Rousseau, lu par Grégoire Courtois, sur la musique choisie par Nano Rousseau, la musique d'Archie Shepp, que vous avez choisie comme BO de votre roman.
Si seulement la vie était comme ça, qu'on se laisse traîner jusqu'au bout en restant affalé sur sa banquette avec un ticket aller, sans avoir à penser ni à bouger son cul comme ça jusqu'au bout, jusque dans le trou, avec quelqu'un d'un peu idiot qui parle à votre côté, quelqu'un que vous n'écoutez pas, qui fait comme une musique de fond pour vous endormir. Seulement voilà, la vie, elle est pas comme ça du tout. Ça dure pas longtemps les voyages, et puis c'est cher. Et puis c'est sale le RER, et en plus ça va pas loin. Bon Dieu, ce que la vie est dégueulasse quand même, je me disais. Si elle avait été moins moche, moins conne, on aurait peut-être pu s'entendre, mais quand je la voyais le matin, qui traînait dans la caravane à faire le café comme une grosse loutre dans son terrier, sous la vase, avec ses petites oreilles pleines de poils, ça montait la haine. Oh, je sais bien, je suis pas taré, je sais bien que c'était la haine de moi-même, la haine de ma propre laideur que je lui renvoyais en miroir. Mais comment se supporter, sinon? Comment continuer à vivre avec des projets déjà largement entamés? C'est pas moi qui ai inventé tout ça, c'est la vie, depuis longtemps, depuis toujours peut-être.
Un extrait des coccinelles dans les noyaux de cerise, lu par le libraire Grégoire Courtois de la librairie Oblique en France. Ce roman noir est terrifiant, Nano Rousseau. Ce personnage est un monstre absolu et pourtant il n'en a pas l'air. Elle vient d'où sa haine ?
De sa naissance, hein. Vous savez, j'ai pris une histoire vraie. Hein. Comme je vous disais, on est une éponge, le romancier est une éponge, donc je ramasse des histoires vraies partout, puis je construis un personnage. Ouais. Alors moi, je suis pour la catharsis, j'y crois beaucoup, ça existe. Hein. C'est-à-dire que les gens projettent sur les personnages leurs propres pulsions, et quand ils ont fini le livre, ils sont bien. Un lecteur de polar ne va jamais faire un braquage ou quoi. Hein, ça, c'est net.
Donc elle vient d'où ? De sa naissance, parce qu'il est né d'une mère, finalement, droguée, prostituée.
Il s'est fait descendre dans un cambriolage. Mmh. Voilà. Et donc, ils l'ont maintenu en vie. C'est une histoire vraie. Hein. Ouais. Ils l'ont maintenu en vie jusqu'à temps qu'il naisse, prématuré, par césarienne. D'accord ? Donc il a eu une naissance déjà terrible. Il a été confié à ses grands-parents. Et puis déjà, voilà, tout est parti de là. Bon personnage, hein, tout.
Ouais, c'est ça. Il a, pour lui, la haine de la vie.
Oui, il a la haine. Et puis surtout qu'il n'a pas une mère. Donc ça, c'est terrible. Vous savez, quand vous n'avez pas de mère, hein, y a beaucoup de gens qui ont déjanté du point de vue familial. Hein.
François va faire une rencontre en prison. Il va se retrouver en prison à un moment. Un caïd nommé Mehdi, un mec solide, un vrai criminel que tout le monde respecte, mais dans la cellule, ça se passe plutôt bien avec lui. Il est sympa, mais le problème, c'est qu'il méprise ses co-détenus. Alors, comme il leur laisse des miettes, à sa sortie, François va élaborer une vengeance. Et là, la vengeance, elle est affreuse, c'est terrible.
Elle est vraie aussi.
Elle est vraie,
c'est une histoire vraie, oui, parce que vous savez, moi je fréquente toujours mes amis du temps du banditisme qui continuent, hein, ils font des ralouf, tout ça, les fourgons. Je parle avec moi, j'ai pas de morale, hein, et donc ils me racontent des histoires, tout ça. Ça, c'est une histoire vraie du grand banditisme qui est pas connue du tout. Je me suis dit, putain, elle est bien, je vais en faire un roman, vous voyez, parce que ça intéresse les gens, vous savez, les gens, comme disait Sartre, ce qu'ils aiment, c'est la fesse et le sang, hein.
La fesse et le sang, il y en a.
Attends, moi j'adore les faits divers. Hein,
c'est violent quand même, Nan.
Mais c'est la catharsis. Il faut. Vous voyez, moi je suis pour libérer les gens de leurs pulsions. Donc quand ils lisent le livre, je pense que. Quand je l'écris personnellement, je vais vous dire, je sors de là, je suis un agneau. Hein, j'écris mes 5 pages, je reste près de ma cheminée, je bouge plus. Hein,
ça nous rassure parce que vous êtes défoulé parce qu'on se dit vraiment, pour être capable d'inventer une histoire pareille, surtout quand. on connaît votre passé, tout le monde le connaît votre passé, vous l'avez écrit, hein. Vous avez fait de la prison, oui, vous avez été un braqueur, etc. Bon, ouais. Bref, vous êtes rangé depuis bien longtemps, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Oui. Mais on se dit quand même, alors vous me dites que c'est une histoire que vous avez entendue.
Oui, bien sûr, c'est vrai. À l'église, c'est un tueur qui a arnaqué un grand bandit, ce qui est très très rare. Mm. Les tueurs en série, on les fait passer pour des super génies, c'est des idiots d'habitude, ils font toujours les mêmes choses, donc ils se font gauler par accumulation de conneries, quoi, en fait, en gros. Hein.
Ouais,
mais là, le mec est spécialement intelligent, ce qui est assez rare, c'est le tueur en série. Hein.
Ouais. Vous n'avez aucun filtre, en tout cas, Nan. Vous racontez plein de choses hein, sur la vie carcérale. Et puis, vous dressez ce personnage misogyne qui ne respecte pas du tout les femmes. Il les manipule, il couche avec pour s'en servir, pour les dépouiller. Sa copine, il l'appelle la grosse. Vous allez faire bondir l'électrice, non ?
Je ne sais pas du tout. Il y a une lectrice qui a fait un blog, elle est dithyrambique sur le livre, par exemple, sur Internet. Ouais, ouais. Mais alors, j'étais vers mon fils, il m'a dit, mais avec ça, le livre, il va se vendre par millions, quoi. Vous voyez ? Donc, il y a des femmes qui adorent le truc. Elle est même gênée, elle, d'avoir adoré le personnage.
Ah, par hein.
Elle le dit elle-même. Moi, je pense que, parce qu'on est tous des criminels potentiels, faut le savoir, les gens. Moi, j'ai discuté avec une femme l'autre jour sur un chantier, parce que je fais encore des petits chantiers au noir, pour rendre service, hein, pas pour les thunes. Et donc, la nana, je lui dis, on est tous des criminels potentiels. À la fin du discours, elle voulait pas le reconnaître, elle a failli me tuer. Ah ouais, ouais, elle voulait me tuer. Je lui dis, bah, tu vois, regarde l'état dans lequel tu te mets. On est tous. Donc, je pense que projeter dans des livres, mais si, c'est une réalité.
D'accord, Emmanuel. Ça n'engage que vous.
Oui, bien sûr. Bah, non, ça n'engage que vous.
Non.
C'est un catharsis collectif, c'est collectif, donc ça engage tout le monde.
On va laisser la parole à deux libraires, deux lectrices justement, qui vont vous dire ce qu'elles pensent de votre roman, Nanon Rousseau, Sophie Creuse, en Belgique, choquée, troublée ou séduite ?
Les trois, mon général, parce que voilà, ça m'a plu, le côté génie abscond, cette fierté minable, cette logique absurde, ça c'est plutôt drôle. Et puis ça m'a amusé aussi l'idée de s'attaquer aux noms politiquement corrects, enfin, maintenant que je sais que c'est vrai, c'est un peu moins drôle, mais les pauvres, les dingues, les handicapés, les vieilles, tout ça, ça va. Mais allez savoir pourquoi la délectation de la misogynie et puis des tortures infligées à la jeune Karima, ça m'a beaucoup moins amusée.
Anne-Françoise Corr, en Suisse, comment s'est passée votre lecture ?
Je trouvais que ce roman était pour le moins décapant. Un humour noir qui peut être corrosif et qui est porté par une langue truculente, argotique, parfois vulgaire, mais dont la poésie n'est jamais absente. Et je finis par une toute petite citation de Nanon Rousseau, « C'est mauvais l'entassement ». Moi, c'est ce que je dis toujours, les hommes, c'est comme les pommes, si tu les entasses, ils pourrissent.
Oui, c'est vrai.
Oui. Ouais. Il y en a plusieurs dans le bouquin comme ça.
Et vous écrivez aussi, les gens n'aiment pas les histoires de prison, ils n'aiment pas les jeunes détenus non plus. Déjà qu'ils n'aiment pas les pauvres, alors quand en plus ils sont jeunes et d'origine étrangère, bonsoir la haine.
Ah non, bah ça c'est réel, moi je l'ai remarqué par exemple avec mon livre qui s'appelle Le ciel sur la tête, vous savez, sur les jeunes en prison, sur une mutinerie en prison. Mais alors il ne s'est pas vendu du tout, alors j'en étais malade, alors que je racontais des histoires vraies qui se passent chez les jeunes détenus, et les gens me disaient toujours, ah oui mais bon on y en a marre, ils ne sont pas à l'hôtel. Voilà, des bêtises comme ça, alors que ce sont des jeunes français qui vont se radicaliser, bien sûr, parce que ce sont des jeunes d'origine maghrébine, hein, bien sûr, mais ça, à l'origine, c'est parce qu'on a apporté de la main-d'œuvre étrangère pour casser les syndicats.
Ouais.
Donc, vous voyez, c'est ce genre de truc qui mène au radicalisme islamique. C'est terrible, c'est terrible.
Alors, votre personnage, hein, il est dans un autre registre, évidemment. Il a la haine pour la vie, hein, en quelque sorte, puisqu'il est mal-né, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il refuse tout sentiment, c'est-à-dire qu'il majore l'horreur un peu pour la rendre logique et normale. Et pour lui, l'amour ne passe pas, jamais. Quand il a la tentation de l'amour, il s'enfuit, ou en tout cas il s'en écarte.
Ou il devient très méchant.
Ou il devient méchant.
Il a peur de l'amour. Déjà, c'est un personnage... Vous savez, moi, je l'ai écrit à la première personne. J'ai fait une version à la troisième personne, comme on fait des fois. Puis ça marchait pas, ça avait pas de réalité. Et je me suis écrit à la première personne et j'en faisais des cauchemars. Je me suis impliqué dans le personnage. J'ai été chercher en moi tous les ressorts de la criminalité qu'on a tous en nous, hein, je le dis toujours. Hein. On est tous des criminels potentiels.
Surtout vous, là, pour le coup.
Non, on l'a vu dans plein de... Regardez une panique dans un cinéma qui brûle. Oui. Les mecs, ils écrasent femmes et enfants pour sortir. Donc, on a tous...
D'accord, ne vous égarez pas. Et donc donc, à la troisième personne, ça ne marchait pas. À la première, oui.
À la première, ça a marché d'enfer parce que je me suis impliqué totalement dans le personnage. Je faisais des cauchemars. Je rêvais que j'avais tué quelqu'un et l'enterré dans le jardin de ma grand-mère. Mais je ne pouvais pas. Elle est morte quand j'avais 5 ans, ma grand-mère. Mais je me réveillais avec un sentiment de réalité. Je me disais, mais j'ai tué quelqu'un. Je l'ai enterré là-bas à Savigny. Et puis, non. Puis, je me disais, mais t'es fou. C'est pas... Tellement, je me suis impliqué dans ce personnage, vous savez.
Alors ce personnage, il sculpte des petites coccinelles dans des noyaux de cerises. C'est le titre de votre roman, Nano Rousseau. C'est la seule part de délicatesse, la seule part de beauté dans ce livre. Vous pensez qu'il y a toujours, comme vous le dites, une part de criminel en nous? Il y a toujours une part de beauté en nous, même dans les pires situations, même dans les situations les plus horribles, qu'on ne va pas pouvoir décrire, hein, parce que votre livre, il est très gore à la fin, mais c'est affreux, hein, le viol, que ça passe, bon, bref.
D'accord, non, il y a toute une gamme, hein. Il y a des types qu'on ne peut rien faire, un mec comme Dutroux, par exemple, ou des gens comme ça, hein, on ne peut rien faire pour Niret. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des mecs comme ça qui appellent les jeunes filles des membranes? Parce qu'il veut des vierges. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des mecs comme ça, hein? Donc là, il n'y a rien à faire. Mais il y a toute une gamme. Avant, il y a par exemple, les jeunes détenus. J'y vais, moi, dans les prisons. Mais on pourrait les sortir de là en un an si on nous donnait les moyens. Vous savez, moi, les jeunes, ils m'adorent dans les prisons. Parce que je parle avec eux francs, comme ça, comme vous dites, la boîte de décoffrage, sans filtre et tout. Et ils m'adorent. J'ai fait une intervention dans un centre fermé dans ma région, là-bas, en Auvergne. Et j'ai pas obtenu les moyens. Et les types, à la fin, et je voulais leur faire des travaux. Vous savez, refaire une salle de télévision qui était toute pourrie, eh ben, ils ont fait une évasion collective. Par exemple, vous voyez,
alors une évasion collective.
Oui, ils ont fait une évasion collective, ils ont brûlé le centre et ils se sont barrés.
Ah
et
oui,
tout ça parce qu'on n'a pas
magnifique
eu les moyens.
Travail,
non, mais c'est pas ça, c'est parce que j'ai pas eu
grande
les moyens.
Réussite.
Mais non, je n'ai pas eu les moyens, ils étaient prêts à faire les travaux et le garde des Sceaux nous a refusé les moyens. Et du coup, les jeunes qui attendaient, qui m'adoraient, qui disaient quand est-ce qu'il revient Nan, quand est-ce qu'on fait les travaux, eh ben ils se sont révoltés et ils se sont évadés en collectif.
Voilà. Bon, le mot de la fin, c'est pour un libraire, comme d'habitude. Jérémy Laniel au Canada, à vous l'honneur cette semaine. Vous avez lu, évidemment, le roman de Nano Rousseau.
Oui, voilà un livre, mais tout comme l'auteur, que j'ai trouvé surprenant, hein, tant sur le ton que sur le rythme. C'est un roman noir, mais drôle, efficace, surtout sur les ruptures de ton. J'avais parfois l'impression d'être dans un film des frères Coen, et pour moi, c'est très, très confortable, un film des frères Coen. Il y a quelque chose de grossier dans certains personnages, de vulgaire dans la langue, parfois même d'obscène, mais le milieu de l'histoire le justifie bien, et il parvient quand même à finaler tout ça dans un roman assez serré où tout tombe bien en place, très habile.
Voilà, vous avez séduit nos libraires, Nano Rousseau.
Bah, tant mieux, moi j'ai lu sur internet qu'une nana justement a dit entre Tarantino et Audiard. Je trouve que c'est pas mal comme résumé.
Et Grégoire avait une autre référence, hein, je crois, parce que vous n'avez pas donné votre avis, vous avez lu Nan, mais
ouais,
et Torres Cola.
Ouais, c'était cinématographique affreux, sale et méchant, oui.
un peu. Ouais.
Bon, bah félicitations, écoutez.
Non, bah je vous remercie de m'avoir invité.
Merci, Nan.
Voilà, okay,
à très bientôt.
À tous.
Des coccinelles dans des noyaux de cerises est paru aux éditions Buchet-Chastel.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Avant de conclure, voici un extrait en avant-première du nouvel album de Da Silva qui sortira en mars prochain.
De peur que tu me quittes, j'ai ouvert la porte en grand. Je me suis préparé à te dire adieu, adieu. 100 fois je suis sorti embrasser des inconnus pour te perdre avant l'heure. Et te dire adieu, adieu. J'ai dressé des barricades, des forteresses imprenables. Comme John McEnroe, je te prends de court. Lorsque l'amour s'écroule au fond du cours. Comme John McEnroe, je te prends de court. Lorsque l'amour s'écroule au fond du cours. Bien avant que la douleur de ton départ ne me gagne. Effrayant, effrayé, j'ai démoli ton amour. Avant que tu me détestes, je rongerai ma laisse avec allégresse pour te dire adieu, adieu. J'ai dressé des barricades, des forteresses imprenables. Lorsque l'amour s'écroule au fond du cours.
Un extrait de John McEnroe, le nouveau titre d'Emmanuel Da Silva que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Alexandre Fougeron avec Florent Beauvallet. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France. Martine Béguin-Follet et Annick Chouin en Suisse. René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. À la semaine prochaine, même jour, même heure sur votre radio francophone. Et merci pour votre fidélité. À bientôt. Salut.